Paris à la place. L'homme de mon salaire. Des exprès,
des étymologies.
Oui, des étymologies populaires, mais on les raconte comme ça pour les faire retenir, bien. Hein? Quand on demande à un enfant quels sont les 12 fils de Jacob, ben, il va les retenir facilement, il va raconter l'histoire. Léa conçut encore et elle enfanta Jacob un sixième fils. Léa dit, Dieu m'a fait un beau présent. Cette fois, mon mari m'honorera, car je lui ai donné 6 fils, et elle l'appela le prince.
Zavoul.
Le prince, qui vient d'une racine, Isabémi, il m'a honoré, il m'a princié, si vous voulez. Ensuite, elle enfanta une fille. Ensuite, tout ça, septième. Hein. Et elle l'appela Dina. La justice aussi. C'est le féminin de Din. Din, Dina, la justice. Alors, Dieu se souvint de Rachel. Ah, jusque-là, il l'avait oublié. Dieu se souvint de Rachel. Suscité par tant d'enfants. Hein. 7. Plus 2, plus 2. Alors Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Elle conçut et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé la honte, et elle l'appela Joseph, en disant que le Seigneur m'en ajoute un autre. Joseph. Joseph, c'est celui qui grandit, celui qui ajoute. Ou celui qu'on ajoute. Donc c'est une espérance, Yosef, hein, qu'il ajoute. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir, que j'aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes pour lesquelles je t'ai servi. Ils sont toujours esclaves en quelque sorte. Hein. Ils sont parents, mais ils travaillent pour de l'argent. Donne-moi mes femmes pour lesquels je t'ai servi et mes enfants, et que je m'en aille. Tu sais bien quel service j'ai accompli pour toi. Laban lui dit, si j'ai gagné ton amitié, c'est-à-dire si j'ai trouvé grâce à tes yeux, écoute-moi. J'ai appris par les présages que le Seigneur m'avait béni à cause de toi. Hein? Depuis que tu es avec moi, depuis qu'on est associés quelque part, hein, ça va mieux, les affaires vont bien. Et puis, il y a de la main-d'œuvre, là, hein? Tous ces fils, vous comprenez, hein? Ça peut travailler, non? Aussi, ajouta-t-il, fixe-moi ton salaire, je te payerai. Ben, il veut le garder. Il lui répondit, tu sais bien de quelle façon je t'ai servi. Est-ce que ton bien est devenu avec moi? Le peu que tu avais avant moi s'est accru énormément. Et le Seigneur t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je moi aussi pour ma maison?
Il en a 12.
Ah oui. Donc il veut s'établir à son compte, comme nous disons. Il ne veut plus être associé, il veut s'établir à son compte. Jacob répondit, tu n'auras rien à me payer. Si tu fais pour moi ce que je vais te dire, je reprendrai la conduite de ton troupeau. Et alors, il y a une petite histoire très drôle, qui est basée probablement sur des coutumes de bergers, qui sont faites pour montrer comment les troupeaux de Jacob vont se multiplier beaucoup plus vite que celles de la part. Petit stratagème. C'est pour ça que je m'arrête. Que nous avons vu. J'ai toujours quel est le chemin de grâce par lequel Dieu traverse l'humanité telle qu'elle est, avec ses vicissitudes, avec ses hauts, avec ses bas, comme le sont toutes nos vies. Et c'est vrai que ça nous pose un gros problème. Pourquoi n'agis-tu pas? Vous avez cette phrase toujours dans les psaumes notamment, mais aussi chez les prophètes. Puisque ce beau texte qui revient dans l'Avent, là, ce texte d'Isaïe au chapitre 63-64, « Ah, si tu déchirais les cieux, aussi pour un couteau pour déchirer les cieux, et si tu descendais. Cette aspiration à une présence de Dieu qui vient sur terre, il descend là aussi. Et c'est vrai que si on faisait une étude de toutes les descentes et de toutes les montées de l'homme vers Dieu, de Dieu vers l'homme, à travers des anges ou sans anges, on aurait de nouveau une thématique extraordinaire à travers toute la Bible. On a donné quelques jalons ce matin. Alors, ce qui est ici en route, c'est toujours la question comment Dieu parvient-il à traverser les tromperies. Oui, ce sont souvent des tromperies, ce sont souvent des massacres, ce sont souvent des violences, ce sont souvent des ruptures humaines. Alors, je passe au-dessus de ce chapitre 30 qui raconte simplement un stratagème de berger. Ce n'est pas tellement important. J'arrive à la fuite de Jacob. Jacob s'est enfui de la maison en craignant Ésaü. Voilà que Jacob s'enfuit de chez Laban pour se libérer, pour vivre une libération. Parfois, le meilleur moyen de vivre la libération, c'est la fuite. C'est pas toujours. Notez qu'on peut fuir et garder son problème. C'est exactement ce qui se passe avec Jacob. Il s'enfuit d'un côté ou de l'autre, mais il garde toujours son problème d'inimitié avec, par rapport à Ésaü. Ça, c'est clair. Et donc, ça, c'est le problème fondamental. Le problème de Laban n'est qu'une sorte de répétition, mais c'est le commencement d'une sortie, d'une véritable sortie. Il vit vraiment là comme un esclave et il doit sortir de cet esclavage. Et il vit comme un esclave et finalement, c'est Laban qui l'utilise. Il devient son otage parce qu'il est pour lui une source de revenus. Et Laban n'aime pas que cette source de revenus s'enfuit et que Jacob devienne en quelque sorte, d'allié qu'il est, devienne un concurrent et un rival. On voit bien que c'est vraiment un problème fondamental. Hein. Et ce problème fondamental naît de l'économie, toujours à partir des biens de la terre. Ici, ce sont des brebis, hein, ça pourrait être du fruit des champs, peu importe. Au chapitre 31, je lis ceci. Jacob apprit que les fils de Laban disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est aux dépens de notre père qu'il a constitué toute cette richesse. » Ce n'est pas tout à fait faux, hein? Parce qu'il était chez Laban qu'il a pu s'enrichir. Est-ce qu'il a volé Laban? On peut le dire, on ne peut pas le dire. C'est un discernement à faire. Jacob vit la mine de Laban qui n'était plus avec lui comme auparavant. Ah, peu comprendre. Le Seigneur dit à Jacob, c'est le Seigneur qui donne les ordres. Ce qui veut dire que les ordres ne sont pas, les chemins, les trajets qui sont faits par Jacob ne viennent pas seulement d'envie ou de programmation, de détermination qui sont prises par lui-même. C'est pour ça qu'on dit toujours le Seigneur. Il n'y a jamais de coup de téléphone, il n'y a pas de GSM, un rouge. Le Seigneur dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, dans ta patrie, et je serai avec toi. Au pays de tes pères, hein, Abraham et Isaac. Jacob fit appeler Rachel et Léa au champ, voyons pas tout de suite là, hein, où étaient ses troupeaux, et il leur dit, « Je vois à la mine de votre père qu'il n'est plus à mon égard comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. » Il faut choisir, il faut prendre une décision. « Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces. » C'est vrai qu'il y avait Léa puis Rachel, hein, les comportements, enfin voilà. « Votre père s'est joué de moi. Il a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du tort. Chaque fois qu'il disait « ce qui est moucheté sera ton salaire », toutes les bêtes mettaient bas des petits mouchetés. C'était le stratagème qu'ils avaient utilisé. Hein. Ils ne connaissaient pas encore les lois de Mendel. Chaque fois qu'il disait « ce qui est rayé sera ton salaire », toutes les bêtes mettaient bas des petits rayés. Et Dieu a enlevé son bétail à votre père et me l'a donné. Voilà, ça s'est passé comme ça. Il arriva au temps où les bêtes entrent en chaleur, que je levai les yeux et que je vis en songe que les boucs en passe de saillir, les bêtes étaient rayées, tachetées ou taflées. Voilà, il avait des songes. Il avait son petit système à lui. L'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Il a répondu, oui, me voici. Il dit, lève les yeux et vois, tous les boucs qui saillissent, les bêtes sont rayées, tachetées ou taflées, car j'ai vu tout ce que Laban te fait. Il est un vengeur, là. Hein. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint une stèle et où tu m'as fait un vœu. Maintenant, debout, sors de ce pays et retourne dans ta patrie. Donc c'est Dieu qui parle, mais c'est toute une délibération qui se fait. Il revoit tout ce qui s'est passé et il se demande qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois continuer à devenir l'esclave de Laban? Parce que d'une certaine manière, je suis privilégié, ou bien est-ce que je dois retourner? Ou bien est-ce que précisément ce privilège m'est donné par Dieu, m'est un cadeau qui me dit retourne? Tu as maintenant acquis une certaine richesse, tu as une certaine liberté intérieure, il y a peut-être quelque chose de plus important à faire. Quand il quittait, vous avez remarqué que quand il quittait son frère, Ésaü, pour aller chez Laban, il était passé par Bethel. Je suis le Dieu de Bethel. Donc il le rappelle à une expérience de sa vie qui était importante, parce qu'à ce moment-là, il était sans rien à Bethel. Il n'avait qu'une pierre pour reposer la tête.
Et les boucs ici, c'est différent comme mode de bélier au sacrifice d'Abraham ou ça...
Oui, ici c'est chèvre et bouc. Hein. Ici, le sujet c'est de savoir, ils avaient fait une convention, hein, tous les boucs qui étaient d'une seule couleur étaient aux uns, parce que dans les troupeaux il y avait de la margaille, hein, les boucs qui étaient d'une seule couleur allaient à l'avant, et ceux qui avaient des bouchetures ou bien des rayures, etc., allaient de l'autre côté. Mais évidemment, ils ne connaissaient pas les lois de ça, ils ne savaient pas comment ça se produisait et ce que ça donnerait. Hein. Là, on raconte cela pour vous dire, il avait un petit truc, Jacob, il avait reçu un petit truc, et ce type lui avait été donné par Dieu. C'est ça qu'on veut dire, il était avec lui. Rachel et Léa lui répondirent ainsi. Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus? Ah, voyez comment on voit les choses. Il avait travaillé pour les acheteurs, bien sûr, mais il nous a vendus et il a ensuite mangé notre argent. Oui, parce qu'il était de plus en plus pixou, hein, d'abord. Il reprenait de plus en plus du salaire. Il disait, les affaires marchent mal et donc on devra se contenter de moins. Restriction budgétaire. Oui. Toute la richesse que Dieu a retirée à notre père est à nous et à nos enfants. Fais donc maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Voilà.
Faites tout ce qu'il vous dira.
Ils sont d'accord. Oui, oui. Faites tout ce qu'il vous dira, exactement. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva, fit monter ses enfants et ses femmes sur des chameaux, et poussa devant lui tout son bétail, avec tous les biens qu'il avait acquis, le bétail qui lui appartenait et qu'il avait acquis en Padan Aram. Il fait tout ça en une seule journée, en quelques heures, hein, il ne reste plus rien. Pour aller chez son père, Isaac, au pays de Canaan. Laban était allé tondre son troupeau. Et Rachel déroba les idoles domestiques qui étaient à son père. Vous voyez que le monothéisme n'est pas encore total ici. Hein? On a encore des idoles à côté. Et ça a une certaine importance, notamment pour la femme, se dit, attention, c'est quand même, nous avons quand même des dieux protecteurs, les dieux lar, là, hein, les dieux protecteurs du foyer, et si on s'enfuit sans ça, il faut quand même prendre quelques amulettes. Hein. Ah, Laban était allé tondre son troupeau, Rachel déroba les idoles domestiques qui étaient à son père. Jacob abusa l'esprit de Laban, l'Arabéen, en ne lui laissant pas soupçonner qu'il fuit. Il fut bien organisé. Il s'enfuit avec tout ce qu'il avait. Il passa le fleuve et se dirigea vers le mont Galaad. Le fleuve, évidemment, ce n'est pas encore le Jourdain. Hein? Le fleuve, c'est l'Euphrate. Pour venir de Mésopotamie, il faut d'abord traverser le fleuve. Il met déjà un fleuve entre l'avant et l'arrière. Parfois, il faut faire ça. Mettre de la distance. Le troisième jour, par hasard, c'est le troisième jour, on apprit à Laban que Jacob s'était enfui. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait tout de suite, après tout? Il prit ses frères avec lui, le poursuivit 7 jours de chemin, et l'atteignit au mont de Galaad. Au mont Galaad, hein, donc le territoire de Galaad qui se trouve justement à l'est du Jourdain, au-dessus du pays d'Édom et de Moab. Vous avez Édom, vous avez Moab, et puis vous avez Galaad, et puis vous avez le Bachan, et puis vous avez le Golan. Hein, du sud vers le nord. Dieu visite à Laban l'Araméen en songe pendant la nuit et lui dit, garde-toi de dire à Jacob quoi que ce soit. Laban rejoignit Jacob qui avait planté sa tente dans la montagne et Laban planta sa tente au mont Galaad. Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait d'abuser mon esprit et d'emmener mes filles comme des captives de guerre? Ah, voyez comment on se relance là-bas, là. J'ai emmené mes filles comme des captives de guerre. Oui, mais mes filles sont ces femmes, hein. Attention. Pourquoi tu fuis en secret et m'as-tu abusé au lieu de m'avertir pour que je te reconduise dans l'allégresse et les chants avec tambourin? Voyez, ça dit ici. Ça dit ici que ça serait passé comme ça.
Il allait payer un orchestre.
Ah, oui. Oui, justement, louer l'orchestre pour retourner avec Jacob, là. Tu ne m'as pas laissé embrasser mes fils et mes filles. Vraiment, tu as agi en insensé. Il serait en mon pouvoir de te faire du mal. Mais le Dieu de ton père, la nuit passée, m'a dit ceci. Garde-toi de dire à Jacob quoi que ce soit. Maintenant, tu es donc parti parce que tu languissais tellement après la maison de ton père. Mais pourquoi as-tu volé mes dieux? Ah, Dieu, pourquoi est-ce qu'il t'en faut d'autres? On voit bien que c'est superstitieux, hein, le gars. C'est normal, après tout. Jacob répondit ainsi à Laban. J'ai eu peur. Je me suis dit que tu allais m'enlever tes filles. Hein? Toujours l'image qu'on se fait de l'autre.
J'ai eu peur, c'est pourquoi j'ai caché le talon.
Ouais, ouais. J'ai eu peur, parce que tu es un homme dur. Toujours cela. Mais celui chez qui tu trouveras tes dieux ne restera pas vivant, patatras. Devant nos frères, reconnais ce qui est à toi chez moi et prends-le. Reconnais ce qui est à toi chez moi et prends-le. Oui, on voit qu'il y a une tentative de réconciliation. Hein, on essaie de s'arranger à l'amiable. Jacob ignorait en effet que Rachel les avait dérobés. Ça, c'est pour le lecteur. Laban alla chercher dans sa tente, dans la tente de Jacob, puis dans la tente de Léa, puis dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans celle de Rachel. Ah. Oh, Rachel avait pris les idoles domestiques, les avait mises dans le palanquin du chameau, et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Rachel dit à son père, que mon Seigneur ne voie pas avec colère que je ne puisse me lever en ta présence, car j'ai ce qui est coutumier aux femmes.
Qu'est-ce qu'il veut dire?
Si tu n'as pas compris, tu poseras la question. Laban chercha et ne trouva pas les idoles. Jacob se mit en colère et prit à partir Laban. Jacob adressa ainsi la parole à Laban. Quel est mon crime? Quelle est ma faute que tu sois acharné après moi? Tu as fouillé toutes mes affaires. As-tu rien trouvé de toutes les affaires de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères et qu'ils jugent entre nous deux.
Autrement dit, tu me cherches querelle.
Voici 20 ans que je suis chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Les animaux déchirés par les fauves, je ne te les rapportais pas. C'était moi qui compensais leurs pertes. Tu me les réclamais, que j'ai été volé de jour ou que j'ai été volé de nuit. J'ai été dévoré par la chaleur pendant le jour, par le froid pendant la nuit, et le sommeil a fui mes yeux. J'ai toujours été à ton service.
C'est comme le fils aîné dans la parabole.
Ouais. Voici 20 ans que je suis dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles et 6 ans pour ton troupeau. Vous voyez, c'est un doublé, hein, il répète. On dira, bon, c'est une autre source. D'accord. J'ai servi 14 ans pour tes deux filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Il l'a déjà dit. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, le parent d'Isaac, manière de parler de Dieu, le parent, le roi, le père. Il y a deux manières de dire. La terreur, on traduisait jusqu'ici la terreur d'Isaac. Mais il semble bien que, de fait, la terreur, ce ne soit pas tout à fait le terme qui convient. Je n'ai pas vérifié. On pourrait peut-être vérifier comment il le dit dans la traduction hébraïque. Donc c'est 31-42. C'est un terme qui revient parfois et qu'on hésite à traduire. Et voilà comment ça se traduit dans les choses. Ah oui. Ce n'est pas si mal traduit. Il dit ceci. C'est dire après Elohé Avi, Elohé Avraham, ou Fachad Yitzhak. Fachad peut vouloir dire, de fait, la terreur. Mais c'est le terme qui est utilisé généralement pour dire visiter, la visitation. Pachad. Ça peut être la terreur, il peut y avoir un jeu de mots. Ici, je crois que la manière dont il le traduit est peut-être plus juste. Dans la traduction du rabbinat. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, est celui que révère Isaac. Celui que révère Isaac. Pachad. Est-ce que Chouraki traduit par frémissement ici ? L'effroi.
L'effroi d'Isaac.
L'effroi d'Isaac, oui. Parfois il traduit le terme par frémissement. Mais c'est vrai, c'est celui devant qui on s'arrête. Parents d'Isaac, mais parfois, de fait, le terme de parent, titre divin qui ne revient qu'au verset 53, dont le sens est justifié par l'arabe, le palmyrénien, le redoutable, oui. Donc, si le Dieu de mon père n'avait pas été avec moi, tu m'aurais renvoyé les mains vides. Mais Dieu a vu mes fatigues et le labeur de mes mains, et la nuit passée, il a donné son jugement. Donc, il y a là une sorte de compensation occulte, que Jacob s'est octroyé parce qu'il estimait qu'il n'avait pas été bien payé. Il a pris des produits et il les a vendus lui-même, à son compte. Laban répondit ainsi à Jacob. Mais c'est important parce qu'on va arriver à une entente finalement. On voit bien que ou bien on va se bagarrer et on va se tuer, il va y avoir des morts, ou bien on va essayer de trouver un pacte, de nouveau, le pacte, l'alliance. Ici, on dépend de Dieu, et le même Dieu fonctionne d'un côté comme de l'autre. Laban répondit ainsi à Jacob, « Ses filles sont mes filles, ses enfants sont mes enfants, ce bétail est mon bétail, tout ce que tu vois est à moi. Mais que pourrais-je faire aujourd'hui à mes filles que voici, et aux enfants qu'elles ont mis au monde ?» Alors, concluons une alliance, moi et toi. Et puis, il y a peut-être quelque chose dans le texte, mais le texte continue. Et que cela serve de témoin entre moi et toi. Cela serve de témoin, généralement, le témoin, c'est une pierre, un signe extérieur. Cette pierre a entendu nos paroles. Quand on fait une alliance, hein, on dit à haute voix les termes de l'alliance pour qu'il y ait quelqu'un qui entende, pas seulement des hommes, parce que les hommes peuvent mourir, ils peuvent transmettre des choses différentes, mais la pierre, elle est censée être objective. Alors Jacob prit une pierre, l'adressa comme une stèle, et Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Les pierres symbolisent les personnes. Une pierre sur cette pierre. Nous avons lu ça le texte le matin. Ils ramassèrent des pierres, en firent un monceau, et ils mangèrent là, sur le monceau, sur le signe témoin. Laban le nomma Yegar Sahaduta, ça c'est un terme araméen, Yegar Sahaduta, le lieu de la Sahaduta, c'est de l'alliance, du pacte. Et Jacob le nomma Galed. Galad, c'est le même nom, Sahaduta. Donc, c'est le Gal veut dire le tas. Galgala. Golgotha. Tout ça, ce sont des choses rondes. Galilée, Galilée. Le terme Gal veut toujours dire des choses qui roulent. Et Aid signifie le témoignage. Gal Aid, c'est le monceau, le tas du témoignage. Yegar, c'est aussi un tas. Sahaduta peut vouloir dire le témoignage, mais peut-être encore davantage le témoignage de Sahaduta d'une alliance. Il me semble que ce soit un peu plus précis. Laban dit que ce monceau soit aujourd'hui un témoin entre moi et toi. C'est pourquoi il le nomma Galéed. Et Mitzpah, parce qu'il dit, Mitzpah c'est celui qui regarde, là, c'est une tsafa, regarder, observer. Parce qu'il dit que le Seigneur soit un guetteur, un observateur, entre moi et toi, quand nous ne serons plus en vue l'un de l'autre. La pierre reste. La pierre, comme le Seigneur, le regard du Seigneur demeure. Si tu maltraites mes filles, ou si tu prends d'autres femmes en sus de mes filles, et que personne ne soit avec nous, vois, Dieu est témoin entre moi et toi. Et Laban dit à Jacob, voici ce monceau que j'ai entassé entre moi et toi, et voici la stèle. Ce monceau est témoin, la stèle est témoin, que moi je ne dois pas dépasser ce monceau vers toi, et que toi tu ne dois pas dépasser ce monceau et cette stèle vers moi, avec de mauvaises intentions. C'est une limite. Chacun est conscient qu'il y a une limite. On s'arrange entre soi. On n'ira pas plus loin. Toi, tu n'iras pas plus loin vers moi, tu ne vas pas m'agresser. Il y a une limite à ton agression, et moi je mets une limite à mon agression. Ça se passe souvent comme ça, hein? Entre deux personnes qui ne s'entendent pas ou qui s'énervent mutuellement, ben, on se dit, ben voilà, on va faire un pacte, il y a des choses que je ne fais plus avec toi. Hein? Là où on s'énerve, on ne va plus faire ça ensemble. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor. Et c'est intéressant pour la question sur le monothéisme de ce matin. Le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor. Il a aussi un Dieu et ce Dieu pourrait être valable lui aussi. Juge entre nous.
Évidemment, la Bible de Jérusalem, très pieuse, met Dieu d'Abraham avec majuscule et Dieu de Nahor avec minuscule.
Évidemment.
Est-ce qu'avec des majuscules
c'est Eloé, c'est la même chose.
Dans l'hébreu, il y a des majuscules.
Non, il n'y a aucune majuscule. C'est Eloé Abraham et Eloé Nahor. C'est exactement le même. Et c'est peut-être un singulier ou un pluriel. Et Jacob prêta serment par le parent, par la terreur ou l'effroi d'Isaac, son père. Jacob fit un sacrifice sur la montagne et invita ses frères au repas. Ils prirent le repas et passèrent la nuit sur la montagne. Donc qu'ils mangent sur le monticule. Et puis alors, on fait un repas sur la montagne. La montagne va être l'habitacle, l'endroit où va habiter Jacob. Levé de bon matin, Laban embrassa ses enfants et ses filles et les bénit. Il est lié maintenant par un enfant. Puis Laban partit et retourna chez lui. Comme Jacob poursuivait son chemin, il rencontra à l'improviste des anges de Dieu. C'est ce qui nous arrive très souvent. En rencontrant à l'improviste. Les anges, sont rapides, ils traitent de formes extrêmement différentes. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. On arrive ici dans un territoire où il y a des anges. C'est-à-dire des gens ou des événements qui sont ouverts, qui sont accueillants. C'est le camp de Dieu. Et il donna à ce nom le lieu, à ce lieu le nom de Mahanaïm. Mahanaïm veut dire les campements. Le double campement. Mahanaïm. C'est un duel. C'est le camp de Dieu, les camps. De nouveau, c'est pour expliquer l'étymologie d'un dieu. Jacob, voyez, il y a déjà une sorte de préparation, un état d'âme qui s'est créé. On a fait une convention entre Laban et Jacob, et on dit, chacun n'ira pas plus loin que ceci. C'est déjà une libération de l'autre, de l'agressivité, de l'autre, ou l'agressivité, sa propre agressivité vis-à-vis de l'autre. Jacob envoya au-devant de lui des messagers à son frère Ésaü. Messager, c'est la même chose que ange. À son frère Ésaü, au pays de Séir. Ah ! Voilà l'opération qui est en train de se faire. Il y a une opération de liberté qui est en route. On voit que retourner chez son père, pour Jacob, ça signifie envisager, en tout cas, une réconciliation avec Ésaü. Retourner à la source. Retourner chez celui qui l'a béni, mais qui a aussi béni Ésaü. Il leur donna cet ordre, au messager qu'il envoie à son frère. Ainsi parlerez-vous à mon seigneur Ésaü. Voici le message de ton serviteur Jacob, mon seigneur serviteur. J'ai séjourné chez Laban et je m'y suis attardé jusqu'à maintenant. 20 ans, c'est déjà pas mal. Hein? J'ai acquis bœufs et ânes, petit bétail, serviteurs et servantes. Je veux en faire porter la nouvelle à mon Seigneur pour trouver grâce à ses yeux. Autrement dit, j'ai de quoi faire des cadeaux. Et en même temps, c'est aussi une intimidation. Oui.
Est-ce qu'il trempette ce pays?
Qu'est-ce que ?
Est-ce qu'il traverse le pays qui normalement est à la possession d'Ésaü ?
Il n'y a pas de pays en possession. Parlons-nous de pays en possession ? Quand on dit pays des Canaan, oui. Ici, il traverse en fait une région plus ou moins désertique. Et est-ce que Ésaü a véritablement des lieux ou est-ce qu'il est nomade ? S'il est véritablement nomade, il n'est pas fixé à un lieu. Jusqu'ici, en tout cas, ça n'a pas été précisé. Je veux en faire porter la nouvelle à Monseigneur. C'est un petit peu comme il arrive que pour le 14 juillet, par exemple, pour assister à la revue des troupes, on invite des rois ou des princes étrangers. On leur montre la puissance. C'est un petit peu ça. On annonce qu'il y a une invitation, voire... Il y a des biens.
Des attachés militaires, comme les anges.
Mais à la fois, c'est pour intimider la personne et pour s'assurer les bonnes grâces. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü. Lui-même vient maintenant à ta rencontre. Et il a 400 hommes avec lui. Les intentions semblent claires. C'est-à-dire, on va se bagarrer. Jacob eut grand peur et se sentit angoissé. On serait à moins. Hein? Alors, il est quand même malin. Il divisa en deux camps. Vous voyez, il a parlé de Mahanaïm, les deux camps. Bien. Il divisa en deux camps les gens qui étaient avec lui, le petit et le gros bétail. Il ne faut pas mettre tous ses biens dans le même, tous ses œufs dans le même panier. Hein. Il se dit, si Ésaü se dirige vers l'un des camps et l'attaque, le camp qui reste va le sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Yitzhak, le Seigneur, hein, Seigneur qui m'a commandé, retourne dans ton pays et dans ta patrie et je te ferai du bien. Je suis indigne de toutes les faveurs et toute la bonté que tu as eues pour ton serviteur. Je n'avais que mon bâton pour passer le Jourdain, que voici. Et maintenant, je puis former deux camps. Veuille me sauver de la main de mon frère Ésaü, car j'ai peur de lui. Il a peur d'Ésaü, et on voit bien qu'il a peur de sa peur aussi. Il se trouve vraiment en situation de panique et d'angoisse. J'ai peur de lui, qu'il ne revienne et ne nous frappe, la mère avec les enfants. La mère avec les enfants, hein, chacune des mères, bien entendu, il n'y en a pas qu'une. Pourtant, c'est toi qui as dit, je te comblerai de bienfaits et je rendrai ta descendance comme le sable de la mer, qu'on ne peut pas compter tellement il y en a. De nouveau, délibération. Il y a un discernement. Et ce discernement est toujours comme devant un doute. Dieu est là, est-il là? Quel Dieu est là? Tu as dit ceci, je me base sur tes promesses, mais on ne sait jamais. Hein?
Et dans le discernement, il fait mémoire du passé.
Toujours. Je ne peux jamais discerner comme ça, sans rien. J'ai toujours le trajet, hein, la signification de tout ce que j'ai vécu. Hein. J'ai vécu chez Laban, j'ai été au fond désintéressé dans mon travail chez Laban, et puis ce qu'Abraham a vécu et ce qu'Isaac a vécu.
Il y a un psaume qui dit la droite de Yahvé du Seigneur a changé.
Ah oui, tu ne sors plus avec nos armées. Qu'est-ce qui se passe? Et Jacob passa la nuit en cet endroit. La nuit. On arrive à une situation de détresse intérieure. La nuit symbolise toujours cela. Quand le soleil fut couché, un effroi. La nuit, ou surtout le minuit, symbolise dans la tradition juive la persécution. Persécution des Maccabées, persécution des Romains, Auschwitz. Ça c'est la nuit. La minuit. De ce qu'il avait en main, il prit de quoi faire un présent à son frère Ésaü. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, ça fait pas mal, hein, tout ça.
Il y a au moins une pièce par personne.
Ah, 30 chamelles qui allaitaient avec leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânes et 10 ânes.
Il n'y a pas de génisse.
Un beau petit cadeau. Il les confia à ses serviteurs, chaque troupeau à part, et dit à ses serviteurs, passez devant moi et laissez du champ entre les troupeaux. Au premier, il donna cet ordre, lorsque mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera, à qui es-tu, où vas-tu, à qui appartient ce qui est devant toi, tu répondras, c'est à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et lui-même arrive derrière lui. On va voir ce qu'il va faire avec ses pièces de présent, les uns après les autres, hein, avec du champ. Hein, on en a un, et puis quand il a bien, super. Et il y en a encore. Il donna le même ordre au second et au troisième et à tous ceux qui marchaient derrière les troupeaux. Voilà, leur dit-il, comment vous parlerez à Ésaü quand vous le trouverez. Et il a vraiment la clope, hein. Et vous direz, et même ton serviteur Jacob arrive derrière nous. Donc il est le garant. Et c'est-à-dire, en effet, je me le concilierai par un présent qui me précédera. Ensuite, je me présenterai à lui. Peut-être me fera-t-il grâce. Le présent passa en avant et lui-même demeura cette nuit-là au camp.
Au fond, il se présente comme nu lui-même, il a déjà donné tout d'un coup.
Exactement. Exactement. Il lâche du lest. Tout ce qu'il a, il le lâche. N'oubliez pas qu'il est passé avec uniquement son bâton. Et il retrouve une situation de pauvreté. Et ayant donné tous ses présents, il reste finalement nu devant son frère. Vulnérable. Cette même nuit, il se leva, prit ses deux femmes, ses deux servants, ses 11 enfants, passa le gué du Yabok. Le Yabok étant un des petits affluents du Jourdain. Il les prit et leur fit passer le don. Et il fit passer aussi tout ce qu'il possédait. Et Jacob resta seul. Voilà la solitude intérieure, et cette solitude, c'est-à-dire l'angoisse qu'il a de rencontrer son frère Ésaü et de pouvoir faire la paix avec lui, il la met devant Dieu. Il reste à seul. Le choix, finalement, c'est à nous seuls qu'il revient. Qu'est-ce que c'est qu'une solitude avec Dieu? Voilà le problème qui va se poser ici. Vivre sa solitude tout seul, c'est-à-dire en enfermement, en restant lié à soi-même, ou bien la vivre en présence de, en face de. Jacob reste assis. Nous sommes seuls, mais avec la présence de Dieu au cœur de notre vie. Donc c'est une solitude habitée, pas une solitude solitaire. Jacob reste aussi. Et quelqu'un, littéralement un homme, lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il le frappa à l'emboîture de la hanche. Et la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Voyons qu'il ne le maîtrise pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une lutte. Une lutte avec quelqu'un. Quelqu'un, un homme, dit à la fois une extériorité, puisqu'on lutte contre quelqu'un. Et en même temps, on voit bien que cette lutte, elle est intérieure. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'ange de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. On dirait que l'homme en question qui lutte l'atteint au point tout à fait sensible, c'est-à-dire au point où il est vulnérable. Et justement, l'ange, c'est à la fois le lieu du désir et le haut de la jambe, ce qui fait marcher. Souvent, quand on désire, on marche vers l'objet de son désir. Il dit, lâche-moi, car l'aurore est levée. Jacob répondit, je ne te lâcherai pas, que tu ne m'aies béni. On voit bien que cet homme n'est pas véritablement un homme, c'est quelqu'un qui est capable de bénir. Lâche-moi, car l'aurore est levée. Et Jacob répondit, je ne te lâcherai pas que tu m'aies béni. Il y a en même temps une sorte d'ardeur, une obstination de Jacob, et en même temps le désir d'être béni, c'est-à-dire de recevoir la vie de Dieu. Il lui demanda, quel est ton nom? Jacob répondit, si tu redécouvres quel est ton nom, comme le dit le rabbin, tu sauras comment Dieu t'appelle. Très fort, ça. Si tu découvres quel est ton nom, tu sauras comment Dieu t'appelle. C'est énigmatique. Si tu te redécouvres toi-même, tu sauras ce que tu es devant Dieu. Il lui demanda, quel est ton nom? Jacob répondit-il. Il reprit, on ne t'appellera plus plus Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, littéralement, mais Israël. Là, il y a de nouveau une étymologie populaire, Yachar, qui voudrait dire être fort. On t'appellera le fort. Car tu as été fort contre Dieu, et contre les hommes, tu l'emporteras. Le « contre les hommes, tu l'emporteras » est la traduction grecque et la traduction de la Vulgate, qui a été reprise dans la Vulgate, tandis que l'hébreu traduit, c'est 32, 29, c'est ça ? Pardon ?
29.
Toujours bon d'aller voir de près. Yaakov, Yamer Od Shemcha, Kigim Israël, c'est ça, Israël, qui Sarita. Oui, il prend le verbe Sarah, Sarita, c'est ça, Sarita, im Elohim. Tu as été fort avec Elohim, littéralement. Dire contre, c'est pas tout à fait juste. Tu as été fort avec Elohim et avec les hommes, tu auras de la puissance, tu auras de la force, tu emporteras, tu pourras, littéralement. Hein, le terme littéral, c'est tu pourras, tu l'emporteras, c'est déjà une traduction un peu interprétative. Jacob fit cette demande. Révèle-moi ton nom, je te prie. La révélation du nom donne une puissance à celui qui connaît le nom. Si vous avez une foule devant vous, si vous voulez appeler quelqu'un, vous ne connaissez pas son nom, vous ne pouvez pas l'appeler. Donc, appeler, c'est pouvoir appeler quelqu'un, pouvoir avoir, le nommer exactement, c'est avoir une certaine puissance sur lui. Jacob fit cette demande, révèle-moi ton nom, je te prie.